BW. Vue d'Allemagne.
Le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne nazie mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, une période qui a marqué comme aucune autre la mémoire européenne. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, on verra où en est la culture du souvenir en Allemagne 75 ans plus tard. En deuxième partie de ce magazine, on passera la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, un pays durement touché par la pandémie de Covid-19. Nous verrons comment la solidarité s'organise autour des sans-abri. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen, bienvenue, welcome. L'après-midi du 30 avril 1945, Adolf Hitler ne voit plus qu'une seule issue. L'armée rouge a envahi le centre de Berlin. Le dictateur nazi ne veut pas tomber vivant dans leurs mains et devoir un jour répondre de ses crimes mégalomanes. Dans le bunker, enfoui à 12 mètres sous terre, sous le terrain de la chancellerie, Adolf Hitler et sa jeune épouse Eva Braun se donnent la mort. Leurs derniers fidèles brûlent leur corps et enterrent leurs dépouilles à proximité de la sortie de l'abri anti-aérien. Il faudra pourtant attendre le 8 mai pour que soit scellée la fin officielle de l'empire millénaire proclamé par Hitler. Les hauts responsables de la Wehrmacht, l'armée du Reich, signent la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. En Europe, c'est cette date qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait commencé par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939. Mais en Asie, la guerre se poursuivra encore plusieurs mois, jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Selon les estimations, plus de 60 millions de personnes ont perdu la vie durant cette guerre qui a déformé la face du monde de la manière la plus brutale possible. À la sortie de la guerre, les villes d'Allemagne sont en ruine, détruites par les bombes des forces alliées. Le pays ne porte pas seulement la responsabilité d'avoir déclenché la guerre, il est aussi responsable de l'extermination de 6 millions de personnes, 2/3 des Juifs d'Europe, des Roms, des Sinti, des homosexuels, des handicapés ou des adversaires politiques. Pendant plus d'une décennie, les camps de concentration ont tourné à plein régime sur l'ensemble du territoire de l'Allemagne nazie. Alors comment la population allemande vit-elle cette capitulation le 8 mai 1945 ? L'homme politique Egon Bahr, qui sera plus tard un des bras droits du chancelier social-démocrate Willy Brandt, a témoigné de nombreuses années plus tard de l'état d'esprit de ses compatriotes au lendemain de la guerre.
Juste après le 8 mai, je ne me suis absolument pas demandé si nous étions libérés ou vaincus. Bien sûr que nous étions vaincus, mais dans le même temps aussi libérés. Cela n'avait aucune importance, nous étions encore en vie. C'était ça l'essentiel.
La plupart des survivants ont dû penser la même chose qu'Egon Bahr. La guerre a traumatisé d'innombrables Allemands, les hommes en première ligne des combats, mais aussi entre 800 000 et 2 millions de femmes violées par des soldats soviétiques. Près de 14 millions de personnes ont également fui ou ont été chassées des territoires allemands de l'Est et du Centre-Est, aujourd'hui situés en Russie, en Pologne et en République tchèque. Il a fallu leur trouver une place dans l'Allemagne en ruine. Une expérience qui a d'ailleurs un écho jusqu'à aujourd'hui, car les témoins encore vivants de cette époque sont sensibles au traitement actuel des réfugiés. Mais revenons au passé. Au lendemain de la guerre, l'Allemagne vit sa Stunde de Null, son heure zéro. Un autre combat commence pour les Allemands, qui consacrent toute leur énergie à leur survie et à la reconstruction. Les femmes qui aident à déblayer les rues de leurs gravats entrent dans la légende. On les surnomme les Trümmerfrauen, les femmes des ruines. Ce sont aussi les ruines du passé que les Allemands font disparaître. Il s'agit de réprimer la culpabilité de la guerre, d'enterrer les horreurs du nazisme trop longtemps tolérées. Car pendant des années, la population a été soumise au lavage de cerveau de la propagande nazie. L'historien Florian Huber revient sur le contexte de ces premières années.
Quand on regarde la période entre 1945 et 1949, il faut comprendre qu'elle était importante pour deux raisons principales. Premièrement, les Allemands ont dû accepter la défaite, ce qui a été très difficile pour beaucoup d'entre eux. Deuxièmement, ils ont dû envisager un nouveau mode de vie en tant que nation et en tant qu'entité politique.
Alors il y a une question qui fait particulièrement peur aux Allemands dans l'immédiate après-guerre. Comment les forces alliées victorieuses vont-elles les traiter ? Le sort de l'Allemagne a été négocié début 1945 lors des conférences de Téhéran et de Yalta. On en avait parlé d'ailleurs dans un précédent numéro de Vue d'Allemagne en février, que vous pouvez réécouter. Lors de leur conférence finale à Potsdam en juillet 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, qu'on appelle les Trois Grands, donne à leur ancien ennemi la chance de faire de nouveau partie de la communauté internationale en dépit des réserves. Mais les Allemands doivent en payer le prix, financier d'abord avec les réparations, et aussi territorial avec la séparation du pays en zones d'occupation. C'est d'ailleurs de ces zones que naîtront par la suite la RFA à l'ouest et la RDA à l'est, sous influence soviétique. La conférence de Potsdam marque aussi le début de la lutte de pouvoir entre les puissances occidentales et l'Union soviétique. En quelques années, elle culminera pour devenir la guerre froide. Face à l'imminence du conflit, les États-Unis lancent le 3 avril 1948 leur plan Marshall, un gigantesque programme de relance économique de 4 ans pour l'Europe occidentale, Allemagne de l'Ouest comprise. Florian Huber.
Je suis convaincu que l'expérience de la guerre froide a permis aux Allemands, de l'Ouest en particulier, d'accepter plus facilement de faire partie du monde occidental. Et cela a été plus facile pour eux d'aménager volontairement une nouvelle constitution démocratique telle que nous la connaissons encore aujourd'hui.
La politique étrangère de la RFA s'efforce de réparer les erreurs et de coopérer. Le changement est radical, surtout en matière militaire. L'armée allemande devenue Bundeswehr est bâtie uniquement comme une armée de défense. Ce n'est que depuis les années 90 et après de longues discussions que les missions à l'étranger sont autorisées. Validées par la classe politique, elles sont soumises à des conditions strictes et généralement de nature logistique. La RFA, puis plus tard l'Allemagne réunifiée, s'engage pour l'unité européenne. La responsabilité historique de l'Holocauste et de la sécurité d'Israël font partie de la raison d'État et l'Allemagne défend les valeurs fondamentales de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. Sur le plan intérieur et sociétal, l'Allemagne ne sort toutefois que laborieusement de l'ombre de son histoire nazie. À l'Ouest, le travail sur le passé ne commence que dans les années 60 et des décennies encore après la guerre. La plupart des Allemands sont loin d'être fiers de leur pays. La réunification en 1990 sera un premier pas dans cette direction. Peu à peu, les Allemands s'identifient à leur nation. Et depuis la Coupe du monde de football remportée en 2006, ils n'hésitent désormais plus à agiter leur drapeau noir-rouge-or ou à chanter l'hymne national. Aujourd'hui, d'après des enquêtes d'opinion, la connaissance générale sur la Seconde Guerre mondiale et l'époque nazie est en déclin, surtout chez les jeunes. Les fantômes du passé n'ont jamais complètement disparu. Au contraire, d'après le nombre croissant d'attentats et d'activités d'extrême droite. De nombreux responsables politiques accusent le parti extrémiste Alternatif pour l'Allemagne, AfD, d'être le pyromane spirituel de cette évolution. Alors l'AfD a beau nier, elle est régulièrement pointée du doigt pour ses déclarations provocatrices. Le parti a d'ailleurs ouvert depuis longtemps les hostilités sur la question du devoir de mémoire. Son ancien chef, Alexander Gauland, avait par exemple déclaré en 2018 que Hitler et les nazis n'étaient qu'une fiente d'oiseau comparée à 1000 ans de succès de l'histoire allemande. Le dirigeant régional du parti en Thuringe, Björn Höcke, a pour sa part qualifié en 2017 de « monument de la honte » le mémorial de l'Holocauste à Berlin. Apparemment, ces déclarations n'ont pas nui à l'AfD. Au contraire, elles continuent de gagner des voix, bien que, ou peut-être parce que, elles testent les limites de ce qu'on peut dire. Une tendance qui n'est pas près de s'estomper, selon Florian Huber.
Quand on regarde l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, je pense qu'il faut être conscient qu'ils représentent une part importante de la société allemande aujourd'hui. Alors oui, ils sont partis pour rester et on va certainement être témoin d'un combat long et difficile entre ceux qui insistent pour maintenir vivantes les leçons du passé et ceux qui veulent clore ce chapitre de l'histoire allemande une fois pour toutes.
Once and for all. La chancelière allemande Angela Merkel n'est que trop consciente de ce combat. Le 6 décembre 2019, elle a eu des mots on ne peut plus clairs à propos du devoir de mémoire lors d'une visite très remarquée dans un lieu qui, comme aucun autre, met en évidence les crimes nazis, l'ancien camp de concentration d'Auschwitz aujourd'hui en Pologne, où plus d'1 100 000 personnes ont été assassinées.
Nous ne devons jamais oublier, il ne pourra jamais y avoir de trait final ni de relativisation.
Angela Merkel a l'opinion allemande derrière elle. Selon les sondages, une majorité d'Allemands se sentent toujours moralement responsables de l'histoire de leur pays. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on verra ce que l'histoire retiendra de cette drôle de période que le monde vit actuellement. Face au Covid-19, chaque pays essaye de trouver ses solutions. Certains, comme le Royaume-Uni, ont tenté dans un premier temps de laisser le virus se répandre pour atteindre une immunité collective. une stratégie qui a été abandonnée lorsque les chiffres ont commencé à prendre des proportions inquiétantes. La stratégie britannique a d'ailleurs laissé les voisins européens, mais surtout ses propres citoyens, perplexes. Mais après avoir renoncé à laisser agir l'immunité, le Premier ministre a lui-même été hospitalisé en soins intensifs. Parallèlement, pour pallier à l'absence de nombreux services publics dans un pays qui a connu des années de restriction des dépenses publiques, ce sont les citoyens et les associations caritatives qui mettent en place des mesures de soutien et de solidarité. Écoutez le reportage socialement distant de Mélissa Chemam en Angleterre.
Des applaudissements pour les soignants en lieu et place de budget d'urgence pour les services publics. Voilà l'une des illustrations de la frustration qui gronde en ce moment au Royaume-Uni. Les citoyens britanniques ont été encouragés à rester chez eux depuis fin mars, mais ils peuvent sortir, se promener sans autorisation. Les parcs sont également restés ouverts et les cafés et restaurants ont été fermés plus tard qu'en Europe continentale. Mais se laisser faire, s'il rend le confinement moins difficile, a aussi laissé les plus vulnérables à l'abandon. Les maisons de repos souffrent de manque de main-d'œuvre, tout comme les hôpitaux publics. Un autre exemple, la plupart des sans-domicile se sont trouvés sans ressources et sans possibilité de s'isoler dans un espace intérieur. Pour remédier à cette crise humanitaire, ce sont des associations qui s'organisent, comme Caring in Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Ben Richardson en est le directeur.
Ce qui s'est passé dans plusieurs villes est que les personnes sans domicile ont été retirées des rues ou des auberges où elles ne peuvent pas s'isoler pour être placées dans des hôtels. Cela s'est fait très vite et nous avons dû adapter nos services pour répondre à leurs besoins. Et le premier est qu'elles ont faim. La plupart des services de distribution de nourriture dont bénéficiaient les personnes vulnérables ont cessé abruptement pour plusieurs raisons. Donc mon association de relogement s'est adaptée pour fournir un soutien véritable en termes de nourriture et produire environ 6500 repas par semaine qu'une véritable armée de bénévoles distribue. Des chefs de restaurant nous ont rejoints. Nombre d'entre eux n'ont plus de travail en ce moment, donc nous les avons recrutés pour cette opération. Nous avons pu ouvrir 2 à 3 cuisines en moins d'une semaine grâce au personnel de ces restaurants qui ne peuvent plus travailler pour mettre en place cette opération. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'un soutien financier. De toute évidence, ce projet coûte beaucoup d'argent à l'association et nous n'avons pas prévu un budget pour cela. Mais c'est important de parler de la valeur de ce travail et que des gens soient en mesure de nous soutenir d'une manière ou d'une autre.
Le plus exigeant pour l'association est d'organiser ses distributions quotidiennes de nourriture. On croise ainsi souvent leurs camions, comme celui de Josh Angleton, un chef connu à la tête de pas moins de 6 restaurants dans la région.
Je me suis retrouvé rapidement à travailler à temps plein avec Caring in Bristol pour lancer l'initiative Cheers Drive. Il s'agit de distribuer 3 repas par jour aux personnes vulnérables relogées. Nous avons mis en place 3 cuisines et pour cela un partenariat très organisé avec Dom du restaurant Pasta Loco, moi-même et mon équipe, tous des volontaires et l'équipe du café Emeline. On travaille tous les jours produisant environ 1000 repas quotidiens et c'est fantastique. Personnellement, j'éprouve un très grand plaisir à nourrir les gens et c'est super de pouvoir se lever le matin, d'apporter sa contribution dans cette période de crise et de continuer à nourrir les gens. Ça a une fonction thérapeutique aussi. C'est bon pour rester mentalement fort.
Pour Anya Morris, fondatrice de la Food Union, il est important de ne pas seulement compter sur des dons et de rendre cette activité viable à moyen terme.
Il est aussi important de dire que notre union est autant basée sur la collaboration et la solidarité que sur le caritatif et la charité. Beaucoup d'initiatives font actuellement appel à des dons, mais nous trouvons aussi des fonds auprès d'entreprises en plus du public. Et nous payons aux restaurants impliqués 4 livres par repas produit. Ils sont ensuite distribués aux employés de la santé en première ligne, aux travailleurs sociaux et aux communautés les plus vulnérables. Le concept est de créer aussi un flux de revenus pour les restaurants qu'ils utilisent pour acheter les produits alimentaires aux fournisseurs. Donc oui, nous nourrissons les personnes vulnérables et sans-abri, mais nous essayons aussi de générer des sources de revenus pour toute la chaîne de production alimentaire.
À Londres comme à Hastings et Liverpool, d'autres associations cuisinent pour les employés médicaux, pendant que des citoyens lambda fabriquent des masques artisanaux et organisent les courses pour les malades. Des pétitions ont tout de même émergé pour exiger la production nationale de masques pour les soignants ainsi que des augmentations de salaire pour les infirmiers ou encore des visas pour le personnel médical étranger. Dans la 5e économie mondiale, c'est donc un paradoxe dont souffrent cruellement des millions de victimes et les héros du quotidien du Covid-19. Mélissa Chemam en Angleterre pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotta-Talon qui reprendra le micro pour vous parler de l'actualité allemande, entre autres. D'ici là, vous pouvez retrouver et podcaster ce magazine et tous les autres sur notre site dw.com/français. Portez-vous bien. Tchuss !